ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et finalement, Galates chapitre 5, verset 16. Galates 5, verset 16. On va lire 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sur la, n'êtes point sur la, sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, et je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Avant d'aller plus loin, frère Gilles, jusqu'à quelle heure déjà? C'est bien, merci. Bon, ceux qui se rappellent, l'année dernière, au mois de décembre, c'est la dernière fois que je suis venu, et on avait commencé une mini-série d'études sur les ennemis du chrétien. Si votre mémoire est assez... là, je vous demande beaucoup hein, de vous rappeler de ça. Les ennemis du chrétien. Et on a mentionné qu'il y en avait trois. On a un grand sauveur, un grand Seigneur qui est tout-puissant, qui peut faire en sorte, par sa grâce, qu'on peut mener une vie qui va lui plaire et le glorifier. Mais on a trois ennemis qui sont là et qui ne disparaîtront pas tant qu'on sera vivant, tant qu'on va respirer. Et les trois ennemis, c'est le monde, la chair, et le diable. Mais avant, juste se rappeler une chose, depuis que le péché est entré dans le monde, depuis que Adam et Ève, malheureusement, ont désobéi, tout de suite, la paix et l'harmonie entre les hommes, entre les peuples, ça a disparu. Déjà, aussitôt, après que Adam et Ève ont péché, probablement qu'ils ont eu leur première chicane de couple, ça se peut, hein? Hein? Bon, mais ça, on n'entrera pas dans les détails. Mais il reste une chose, c'est que aussitôt que le péché est entré dans le monde, la paix et l'harmonie entre les hommes, les peuples, ça a disparu. La vie en général est devenue un combat. Et là, ici, je fais une mini-révision pour se remettre un peu dedans, là. D'abord, combat dans le monde de la nature. Encore là, si on revient au péché d'origine, dans le Jardin d'Éden, quand le péché était commis, ça n'a pas été long, le Seigneur a bien dit, les ronces, les épines vont apparaître dans la végétation et ça va devenir pénible pour cultiver la terre puis obtenir des fruits. Donc, dans le monde de la nature, déjà, il y a un problème là, depuis cette époque. Dans le monde animal, c'est la même chose. La férocité parmi les animaux est apparue lorsque le péché est entré dans le monde. Avant ça, on ne pouvait pas, un serpent ou un lion n'était pas un sujet de terreur. Je n'ai pas vécu à l'époque, mais je suis sûr qu'avant que le péché apparaisse, il y avait l'harmonie partout dans le monde naturel, dans le monde animal. Mais maintenant, c'est la férocité parmi les animaux, puis disons qu'on s'assied en côté un peu brave pour aller flatter un lion ou un tigre, hein, ou jouer avec un serpent. On va laisser ça à d'autres. Dans le monde des affaires, c'est semblable, c'est-à-dire que, comment dire, dans la compétition, c'est un qui va manger l'autre, puis on dit que c'est la jungle, hein, dans le monde des affaires, donc, etc. Mais aussi dans l'histoire de l'humanité, depuis que le péché est entré dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, si on étudie l'histoire humaine, on découvre la même chose, finalement. C'est que c'est la haine entre les hommes, les guerres, pas besoin de vous faire de dessins, hein, les révolutions, les carnages, le lot de souffrances, les maladies, etc. Donc, c'est incroyable, c'est épouvantable ce que le péché a pu causé comme problème, comme dommage. Donc, tout est devenu un combat. Mais le plus violent et le plus exigeant des combats de la vie, c'est celui dans lequel le chrétien est engagé. Ça peut vous paraître possiblement étonnant que je vous dise ça, mais le plus grand des combats, c'est celui dans lequel le chrétien est engagé. Le jour de notre conversion au Seigneur, on peut dire ceci avec assurance, que le jour de notre conversion au Seigneur, ça a marqué le plus beau jour de notre vie. Hein, c'était le début de quelque chose de merveilleux. Mais en même temps, le début d'un conflit. C'était le début d'une guerre, une lutte, un affrontement spirituel qui a été livré sur trois fronts différents. Trois ennemis que j'ai mentionnés tantôt, le monde, la chair, le diable. Ces trois ennemis cruels qui ne chôment pas, eux autres. Ne déclarent jamais la grève. Inquiétez-vous pas. Ils ne se promèneront pas avec des pancartes. Et ce sont trois ennemis contre lesquels on a à se tenir en garde, évidemment. Et le premier qu'on a regardé au mois de décembre, l'année dernière, eh bien, c'était dans 1 Jean chapitre 2, on s'était concentré là-dessus, on n'ira pas voir, mais je vous le cite. 1 Jean chapitre 2, verset 15, l'apôtre va dire, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ça vient du monde. Et il finit en disant que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça, c'est 1 Jean 2, 15 à 17. On a étudié ça la dernière fois que je suis venu. En fait, c'est quoi le monde? Là, je suis pas en train de vous parler des êtres humains, là. Quand on parle du monde, bibliquement parlant, c'est un système spirituel mauvais et invisible qui est dominé par Satan. Ça, c'est le monde. Selon la Bible, l'ennemi invisible, c'est un système dominé par Satan, le prince de la puissance de l'air. Et on a regardé qu'est-ce qu'il en était de cela, si vous vous rappelez. Mais maintenant, on va se pencher sur le deuxième ennemi ce matin, la chair. Le monde, c'est l'ennemi qui est autour de nous. La chair, c'est l'ennemi qui est en nous. Il est toujours là. On a lu ensemble dans Romains 7 tout à l'heure, on voit le combat de l'apôtre Paul, pourtant un chrétien remarquable, mais il y avait ses luttes spirituelles. Hein? Il devait lutter contre le péché, la chair. Donc, la chair, c'est l'ennemi qui est en nous, j'ai bien dit. Et bon, trois divisions à cette étude. Premièrement, on va regarder la description de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il en est de cet ennemi-là? La réalité du combat et finalement le chemin de la victoire. La description de l'ennemi, eh bien, quand je parle de la chair présentement, là, je ne parle pas de la peau et des muscles. Hein? L'apôtre Paul, dans Romains 7 qu'on vient de lire, il décrit la chair comme étant le péché qui habite en moi. Romains 7, 17. Dans le même chapitre, il va décrire la chair comme étant la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 7, verset 23, 21 à 23 de Romains 7. Tous, sans exception, nous sommes nés avec cette nature pécheresse qui est en nous et elle demeure en nous. Même le chrétien le plus spirituel au monde, comme on dit des fois, il est poigné avec ça. On peut appeler ça nos instincts naturels, en d'autres mots. Donc, la chair, cet élément-là, va demeurer en nous jusqu'à notre mort, et même si on est le chrétien le plus spirituel. Ça ne peut pas être éliminé, ça ne peut pas être sanctifié, la chair, ça ne se convertit pas. Donc, la situation, la description, on peut dire ceci, que comme être humain, au cœur même de notre personne, il y a une tendance chez nous, chez moi et chez vous, une tendance à être égoïste. Aimer Dieu puis notre prochain, ce n'est pas naturel en nous. Pas besoin de chercher longtemps. Même nos aspirations les plus élevées, c'est toujours teinté d'égoïsme et d'orgueil. Il y a toujours quelque chose. On peut faire un bon coup, là, faire de la charité ou quelque chose de beau. On peut se dire, ouais, silencieusement dans notre cœur, t'en viens, ben mon Séraphin, t'as bien fait ça, hein? T'sais, puis là, il y a tout le temps le petit relent d'orgueil qui peut ressortir facilement. Hein? On n'a pas besoin de réfléchir longtemps. On se comprend. C'est pour ça que j'ai dit, nos aspirations les plus élevées peuvent être teintées d'orgueil, d'égoïsme. La chair, on peut le définir comme ceci aussi. C'est le principe dynamique qui nous pousse à pécher. Ça, c'est commun à toute l'humanité déchue, à tout le monde. Et une précision aussi à faire, c'est que j'ai dit tantôt que la chair, les os, les muscles, mais c'est aussi les os et les muscles. D'accord? Ça désigne aussi le matériel, la peau. Mais là, il ne faut pas penser que notre partie matérielle de notre corps, il ne faut pas penser que c'est ça le péché. Pas du tout. Il ne faut pas croire que le péché qui nous habite provient du corps et de ses désirs. La matière dont on est constitué n'est pas mauvaise en soi. Comprenons-nous bien, là. Notre appétit pour la nourriture, pour le confort, nos instincts sexuels, ce n'est pas mauvais en soi-même. Ça vient de Dieu, ça vient du Créateur. Mais ça doit être réglé selon les lois de Dieu. Et c'est la nature pécheresse qui est en nous, qui peut tout pervertir, tout virer à l'envers, si je peux dire, tout gâcher. Et la nature pécheresse en nous, elle peut utiliser les désirs naturels de notre corps pour nous amener à pécher. Par exemple, la faim, les appétits, ça peut dégénérer en gloutonnerie. Le désir inné d'aimer, d'être aimé, ça peut malheureusement dégénérer en passion animale. Vous voyez un peu les dérèglements où ça peut amener. Et en plus que la chair travaille de pair avec le monde, le système invisible. Et donc, notre nature pécheresse, elle est attirée par la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie, etc. Tout ça vient du monde. C'est pour ça que si le monde autour de nous, c'est si tentant, si attirant, c'est à cause du péché qui nous habite, à cause de la chair. Ben voilà, brièvement, de cette façon-là, on peut décrire l'ennemi qui est en nous. Maintenant, la réalité du combat, on l'a lu dans Galates chapitre 5 tout à l'heure. On voit dans Galates 5, il y a deux ennemis, deux adversaires. Je ne sais pas si vous pouvez les nommer, les deux adversaires qu'on trouve dans Galates chapitre 5 qu'on a lu. Le verset nous dit, au verset 16 de Galates 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Voyez-vous les deux ennemis qui sont là? La chair et l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Bon, la chair, c'est ce qu'on est en vertu de notre naissance naturelle, notre nature pécheresse. L'esprit, c'est ce qu'on est en vertu de notre nouvelle naissance. Hein? Le jour où quelqu'un se convertit au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Et c'est là qu'il y a une opposition très forte qui se produit entre les deux. La chair contre l'esprit et vice-versa. Certains chrétiens peuvent des fois dire ou enseigner malheureusement qu'il n'y a aucun conflit intérieur chez le chrétien. C'est une grosse farce, là. C'est un mensonge terrible. La vieille nature disparaît pas à notre conversion. Elle demeure toujours là. Et les œuvres de la chair sont mentionnées dans les versets 19 à 21. On les a lus tantôt. Débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie, etc. Si la chair est invisible, les œuvres de la chair sont bien évidentes. Il y a toutes sortes de domaines. Ça touche le domaine de la sexualité, de la religion, ainsi de suite. Alors, c'est écrit que ceux qui commettent ces choses, plus loin dans le passage, verset 21, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, c'est-à-dire ceux qui en font une pratique. Parce que malheureusement, comme chrétiens, on tombe dans le péché de temps à autre. Soyons réalistes. Mais un chrétien demeure un pécheur, mais ne pratique plus le péché. Alors, le péché, pour nous, est devenu quelque chose dont on veut se débarrasser et commettre de moins en moins par la grâce de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'il parle du fruit de l'esprit qui va suivre dans les versets 22 et 23, l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, bienveillance, etc., fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ça fait partie du fruit de l'esprit et qui fait en sorte qu'on peut plaire à Dieu de cette façon. Alors, si on examine les œuvres de la chair puis du fruit de l'esprit, eh bien, on a une conclusion très évidente ici, c'est qu'il y a une opposition, comment dire, une opposition irréductible entre la chair et l'esprit. Ça tire dans les directions opposées. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il existe ici un combat entre les deux, un combat qui est mortel, un combat qui est permanent. On a une lutte permanente. Si un chrétien vous dit, ah, je ne connais pas ces luttes-là, là, non, ben là, je pense qu'on va s'asseoir, bon, on va prendre un café ensemble, on va discuter un petit peu, là. Si vraiment tu réalises qu'il n'y a aucun tiraillement en toi depuis que tu es chrétien, il y a de quoi que tu n'as pas compris, il y a de quoi que je n'ai pas compris. Ça existe donc. Un combat qui est mortel et permanent, et le résultat du conflit est au verset 17 de notre même passage. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, excusez, j'ai perdu la ligne, ouais, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça revient exactement dans Romains 7, dans le combat de l'apôtre Paul. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ma nouvelle nature, l'Esprit de Dieu en moi, aspire à aimer Dieu. Je veux aimer Dieu et mon prochain comme chrétien. Je prends du plaisir à le faire. Je désire intensément être bon, faire du bien autour de moi comme chrétien. Mais par moi-même, avec ces nouveaux désirs, je ne peux pas faire ce que je veux. Pourquoi je ne peux pas faire ce que je veux? C'est le péché qui habite en moi, qui crée des blocages. Mais ça, c'est le combat du chrétien. C'est le combat qu'on a à livrer jour après jour. C'est un combat qui est interminable, hein? C'est jusqu'à la tombe. Par nos propres forces, en nous-mêmes, on ne peut pas vaincre, on ne peut pas être victorieux dans ce combat-là. Mais je nous pose la question, est-ce que c'est ce que le christianisme nous offre? Est-ce que le christianisme nous offre un échec perpétuel? Certainement pas. Certainement pas. C'est sûr que si on est laissé à nous-mêmes, on va céder au désir de la chair, au péché. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Je ne veux pas qu'on sorte ici la tête entre les deux jambes aujourd'hui, découragé. Au contraire, qu'on en sorte ici pleinement motivé et sachant qu'on n'est pas tout seul pour combattre, puis qu'on a tout ce qu'il faut, on a tout l'équipement spirituel pour combattre. Et ça nous amène au dernier point ce matin, le chemin de la victoire. Le chemin de la victoire. Les deux versets 24 et 25, je les relis dans Galates 5. C'est écrit que ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui sont unis au Christ comme Sauveur et Seigneur, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Dans le chemin de la victoire comme chrétien, il y a deux choses qu'on peut retenir selon ces deux versets. Il y a un jugement divin qui s'est produit à notre conversion et il y a une puissance divine qui vit en nous depuis notre conversion. Il y a un jugement divin qui est arrivé, il y a une puissance divine qui nous habite. Et c'est ça qui fait toute la différence comme chrétien, comme enfant de Dieu. Le jugement divin est au verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai plus à vivre selon ma nature pécheresse. Je dois considérer que la chair a été crucifiée. Et là, je vais essayer d'être, par la grâce de Dieu, d'être plus clair possible. En tant que croyant, lorsque j'ai cru, le jour où j'ai cru Seigneur Jésus-Christ, à la croix, j'ai été identifié avec le Christ Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Et dans Romains chapitre 6 et versets 1 à 6, on ne lira pas tous les versets, on va manquer de temps, mais juste un verset ou deux et vous allez tout de suite comprendre. Romains 6, il est écrit: Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et plus bas, verset 6, c'est écrit: Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. On s'est identifié avec Christ. Christ est mort pour nos péchés, hein? Mais aussi, il a jugé le péché. Je suis identifié avec lui. C'est comme je suis, en mettant ma foi au Seigneur, je me suis identifié avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Ici, la chair n'est pas disparue, mais elle est rendue inactive, si on peut dire. Elle a été jugée à la croix. Le Christ a jugé le péché à la croix. Il y a un cantique tout à l'heure que je lisais dans le recueil. Par sa mort sanglante et triomphante, je suis affranchi du joug du péché par sa mort sanglante et triomphante. Ces cantiques-là, en général, ils sont très collés à la doctrine biblique. C'est très clair. Ça, c'est une vérité que nous, chrétiens, on doit reconnaître comme un fait accompli. L'apôtre Paul dira, ben, dans Romains 6, versets 11 et 12, je vais vous le lire. C'est important, Romains 6, versets 11 et 12. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Christ est mort pour nos péchés et moi, mes péchés ont été pardonnés. Je suis mort avec lui au péché. C'est dans ce sens que la chair a été crucifiée. Il faut le considérer comme un fait accompli. La victoire sur la chair a été pourvue par le Christ Jésus dans sa mort. Je le répète, la victoire sur la chair, sur le péché, mes passions, mes désirs, a été pourvue par le Christ Jésus dans sa mort. Donc, dans mon union avec Christ dans sa mort, sa résurrection, eh bien, le croyant a été crucifié, a crucifié et jugé la chair. L'apôtre Paul va dire dans Galates 2:20, un verset qu'on connaît tous comme il faut, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un passage vraiment capital, ça. J'ai été, faut, Christ est mort pour nos péchés, mais moi, je suis mort au péché. On a cité ce matin ce verset, le juste vivra par la foi. C'est vraiment un acte et une vie de foi à croire le sacrifice du Seigneur Jésus. Il n'est pas juste mort pour nos péchés, mais je suis mort avec lui au péché, identifié avec Christ dans sa mort. Et d'ailleurs, quand quelqu'un est baptisé, baptême d'eau, il reconnaît d'une façon extérieure une vérité intérieure qui s'est produite à la croix lorsqu'il a cru. Donc, il y a un jugement qui a été appliqué sur la chair, sur le péché, un jugement divin qui s'est passé à la croix. Et il y a une puissance divine au verset 25 de Galates chapitre 5. On le relit parce qu'il y a rien que deux petites lignes. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. On sait très bien qu'en tant que chrétien, l'Esprit de Dieu vit en nous et l'apôtre, la parole de Dieu nous amène, nous exhorte à vivre par cet esprit. C'est une nouvelle vie qui est en nous, vivre par l'esprit. Donc, en plus de la chair qui a été crucifiée, on a reçu cette puissance divine en nous, le Saint-Esprit, qu'il vit là, dans notre cœur. Il est présent, il est agissant en chacun des enfants de Dieu. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle puissance. J'aime tellement ce beau verset de Éphésiens 3, verset 20, où l'apôtre va dire, Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, un petit peu, pour quelques petites choses, non, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. En veux-tu plus? On peut plus, là, on est au bouchon. Hein? À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, c'est pas le superlatif qui manque, là, de tout ce que nous. Chers frères et sœurs, on est équipés. Puis je pense qu'on est full équipe spirituellement, puis malheureusement, on le réalise pas assez. En tout cas, je parle pour moi. On réalise pas assez. L'Esprit de Dieu est présent et agissant en nous, chrétiens. Et tout ça dépend finalement de notre foi, d'agir par la foi de notre part, de croire et d'agir en conséquence. Donc, il dit, l'apôtre, marchons aussi selon l'Esprit, si on vit par l'Esprit, si on le possède. Enfin, marcher selon l'Esprit, c'est se tenir près du Seigneur, c'est marcher de façon active dans le droit chemin, nous laisser diriger par lui, selon sa loi, selon ses préceptes, et on a tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu. Et là, c'est possible de résister aux passions de la chair, aux désirs de la chair. Alors, bien sûr, on va connaître des tentations jusqu'à la tombe. Faut pas se faire d'illusions, là. On va connaître des tentations. Mais par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la foi, c'est possible de repousser ces tentations et de produire le fruit de l'Esprit, comme on l'a lu tout à l'heure. Et dans cet état d'âme, on est animé à ce moment-là des nouvelles aspirations, désirs, nouvelles affections. Oui, on va tomber dans le péché, mais on ne fait pas une pratique du péché. Et en principe même, il devrait y avoir une progression dans notre vie jusqu'à la tombe. On devrait grandir en sanctification. Et notre frère en a parlé ce matin de la sanctification pratique et progressive. Eh bien, le Seigneur s'attend vraiment à ce que nous, on progresse dans la sanctification mois après mois, année après année, parce qu'on a tout le nécessaire en nous spirituellement pour que rendre la chose possible. Alors, marcher selon l'Esprit, ça va se voir dans notre style de vie, nos loisirs, nos lectures, nos amitiés. On va faire des choix qui glorifient Dieu, évidemment. La discipline de la prière, ça va être quelque chose d'important. La méditation des Écritures, la communion fraternelle avec d'autres croyants, avoir des amis croyants qui nous encouragent à l'amour, qui nous encouragent à pratiquer le bien, qui nous encouragent au rassemblement du peuple de Dieu, l'assemblée. Donc, tout ça, ça s'enchaîne, évidemment. Donc, si on se résume, peut-être une minute en retard, Gilles. Ouais. Si je résume, on a décrit c'est quoi l'ennemi en question ce matin, la chair. On a regardé la réalité du combat. On est en guerre. Il ne faut pas le temps de serrer la carabine, là. On la tient proche, hein? Et on a terminé avec la note vraiment positive. Le chemin de la victoire. Oui. Permettez-moi cette dernière réflexion en terminant un matin. La chair, oui, c'est un ennemi redoutable pour chacun de nous, les chrétiens. On va la combattre jusqu'à la tombe. Hein? Faut pas d'illusion. Mais cet ennemi-là a été jugé à la croix. A été jugé à la croix. On peut vaincre cet ennemi dans notre vie quotidienne. Et je vous lis, ça n'a pas besoin que vous y tourniez, mais je lis dans Romains 8, 11 et 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez. Et de cette façon, on va être des chrétiens qui vont répandre la bonne odeur de Christ autour de nous. L'amour, la joie et la paix. Et je vous propose une prière journalière qu'on peut faire chaque matin. On peut prier le Seigneur chaque matin, lui demander de le glorifier aujourd'hui dans notre corps et dans notre esprit. Seigneur, que je puisse te glorifier ce matin, en ce jour qui débute, dans mon corps, dans mon esprit. Et je vous lis la petite prière ici, la composition, mais les droits d'auteur sont ouverts. Seigneur, tu es mort pour m'enlever la peine de mon péché et aussi pour briser la puissance du péché. Tu as brisé la puissance du péché à la croix. Qu'en ce jour, je puisse vivre par la foi pour ta gloire jusqu'au jour où tu me rappelleras à toi, en Jésus. Amen. On va prier un instant. Notre Dieu, tu nous connais, tu connais tes enfants, tu connais ceux qui t'appartiennent, et si tu connais aussi tout ce que nous avons à vivre jour après jour. Il y a les épreuves de la vie de toutes sortes, mais il y a aussi cet ennemi dont on a parlé ce matin, qui est en nous et qui ne nous quittera pas. Mais tu nous as donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, nous dit ta parole, pour te glorifier dans notre vie. Que l'on puisse, par ta grâce, et qu'on puisse avoir cette sagesse par ta grâce, de se réfugier en toi et que par la foi, nous puissions constamment réaliser et vivre tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as accompli pour nous, afin de nous rendre possible une vie de victoire, une vie qui va te glorifier jour après jour jusqu'à ton retour prochain. En Jésus notre Seigneur, je te prie aussi pour chacun de mes frères et sœurs dans cette salle. Amen.